Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Madame la Ministre. Merci d'être présent à ce lancement de la semaine du logement accompagné. Et je passe tout de suite la parole à Jean-Paul Vaillant, qui est le président de l'UNAFO.
Bien, bonjour à tous et bonjour Madame la Ministre. Alors, pourquoi on a souhaité faire une semaine du logement accompagné? Pourquoi on a souhaité organiser cela? C'est naturellement pour promouvoir l'action qui est menée par nos adhérents, pour donner à voir l'utilité sociale de cette action, sa contribution à la politique du logement d'abord, et c'est aussi pour permettre d'approfondir un certain nombre de points et de questions, et ça fera partie des conférences, des débats qui vont avoir lieu tout au long de cette semaine, et on invite bien évidemment chacun à y participer, puisqu'on a souhaité que ce soit ouvert et libre d'accès. Alors, cette première semaine du logement accompagné, naturellement, on l'organise dans un contexte bien particulier de la crise sanitaire qui dure, et ce second confinement qui nous limite. Alors, on espère bien évidemment tous en sortir bientôt. Ça, je crois que chacun est bien conscient de ça, que ça nous limite aussi dans le donner à voir, puisque la semaine du logement accompagné, donner à voir, ça veut dire aussi montrer un certain nombre d'établissements. Alors là, bien clairement, on est limité dans les visites qu'il est possible d'organiser. Ça nous limite aussi dans les échanges, avec tout ce que permettent des échanges informels. L'illustration de ce lancement, c'est que nous sommes maintenant bien coutumiers de l'utilisation des visioconférences, et c'est un peu pourquoi on a souhaité maintenir cette initiative. Alors, pour autant, même si, comme je le disais, on espère tous sortir bientôt de la crise sanitaire, cette crise sanitaire, elle marquera non seulement les esprits, mais je crois qu'elle sera encore pendant longtemps présente, et pas seulement comme un souvenir lointain, mais présente dans les ajustements, les comportements et les modes d'action. Un certain nombre de conséquences de cette crise, dans ce qu'elle nous a fait découvrir, a montré qu'en termes d'organisation du travail, en termes de fonctionnement, il y a des enseignements à tirer. Et puis aussi peut-être presque surtout dans la relation avec l'autre, à l'autre. Je pense qu'on se rend plus compte des choses quand le manque fait ressentir la nécessité, en quelque sorte. Alors cette crise sanitaire, elle a montré, si on était besoin, parce que pour le coup, je crois que c'était déjà bien présent dans les esprits, l'importance de disposer d'un chez-soi, mais ça l'a renforcé, parce qu'à partir du moment où on vous demande de rester chez-soi, forcément, c'est une dimension supplémentaire, et ce chez-soi, c'est ce que proposent nos adhérents, avec des logements en résidence sociale, en pension de famille, en foyer de jeunes travailleurs, en foyer de travailleurs migrants. Avec cette offre, des personnes, principalement des personnes isolées, mais aussi des couples, des familles monoparentales, disposent de ce chez-soi, mais aussi d'un accompagnement adapté à la diversité des situations que je viens d'énumérer. Cette crise, elle est aussi révélatrice de la fragilité de la situation d'une partie des personnes que nous logeons. Je pense notamment aux jeunes privés d'emploi, tous ceux qui occupent des emplois précaires, et aussi d'une façon plus générale, tous ceux qui souffrent du confinement, avec des conséquences que nous commençons à apercevoir ou à avoir dans nos établissements en termes de comportement et d'agressivité. Je pense aussi à tous ceux qui se sont retrouvés dans ces situations financières plus difficiles, se trouvent encore aujourd'hui, vont se trouver privés de ressources, avec comme conséquence une augmentation prévisible des impayés et nécessité de mettre en place des solutions adaptées. Nous savons que cette question de montée des impayés est largement devant nous, puisqu'il y a un certain nombre d'outils de régulation ou des parachutes, un peu comme on les appelle, qui permettent un peu d'estomper l'effet direct, mais on sait que cette problématique est devant nous. On sait aussi que la crise frappe plus durablement les publics les plus fragiles, les plus précaires. On a bien noté la mise en place, que vous avez mis en place, Madame la Ministre, de l'Observatoire des impayés pour aider à mieux apprécier les situations. Bien évidemment, notre souci est aussi que cette observation serve à agir collectivement en termes de prévention et d'aide à mobiliser. Vous avez annoncé la semaine dernière que le compte à rebours était lancé pour la réforme des APL. Un vrai compte à rebours pour le coup. on a bien noté les dispositions particulières qui avaient été prises, notamment pour les étudiants. Hein. Nous restons néanmoins inquiets sur les conséquences de cette réforme pour les jeunes actifs, hein, qui ne disposent que de faibles ressources en raison de la précarité de leurs emplois. Donc on peut être étudiant et un peu actif, mais on peut être actif, jeune actif et avoir une précarité dans les ressources. Alors, dans cette crise sanitaire, nos adhérents ont su se mobiliser, continuent à se mobiliser pour assurer ce qui constitue le cœur de leur métier, hein, la présence attentionnée auprès de leurs résidents, même confrontés à une situation totalement inédite, plus difficile à vivre pour les plus fragiles, hein, les personnes âgées, les personnes en situation de précarité ou en difficulté sociale. Cette mobilisation a été, on s'en souvient, particulièrement difficile dans la première période, hein, puisque bah, du fait de l'absentéisme hein, pour garde d'enfants, pour situation en fragilité, pour les seniors les vulnérables, pour le ralentissement des activités, l'arrêt d'activité ou le ralentissement pour certains partenaires, la fermeture des services publics, la pénurie d'équipements de protection individuelle, notamment de masques. Alors, nos adhérents, dans ce contexte, ont su s'adapter hein, pour continuer à assurer une présence, hein, mettre en œuvre des réponses innovantes pour communiquer les gestes barrières, pour répondre aux sollicitations de leurs résidents, mais aussi pour assurer une veille attentive sur les risques de contamination. On se souvient des craintes qui avaient été évoquées pour la situation particulière des foyers de travailleurs migrants. Hein, nos adhérents ont été présents. Notre union aussi a su rester présente. Hein, puisqu'elle a permis beaucoup d'échanges sur les bonnes pratiques, elle a permis de relayer des informations et des recommandations des pouvoirs publics, de faire connaître à ces mêmes pouvoirs publics les difficultés concrètes rencontrées pour mettre en œuvre les préconisations qui leur étaient faites. Alors, il est bien entendu trop tôt pour tirer tous les enseignements de la crise, mais je pense que nous allons être en mesure, et c'est aussi l'objet de cette semaine du logement accompagné à travers les débats et les échanges que nous pourrons avoir, hein, de tirer les premiers enseignements, notamment sur les questions d'accompagnement des personnes logées en situation de crise, hein, puisqu'on aura dès demain une table ronde sur le sujet avec la participation de Cynthia Fleury qu'on ne présente pas, de Marie-Apolline Barbara, qui est économiste à l'Aviation du Trésor et qui a travaillé sur les inégalités de conditions de vie face au confinement, et d'Arnaud Richard, hein, qui est directeur général de Coalia, un de nos grands adhérents. Cette question de l'accompagnement des personnes logées, notamment en situation de crise, sera également présente dans les dialogues que nous aurons avec la déléguée interministérielle à la lutte contre la pauvreté, hein, Marine Janté, avec le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, hein, Franck Olivier, et avec le DIAL, Sylvain Mathieu, avec lequel j'aurai le plaisir de dialoguer en conclusion de cette semaine. Elle le sera aussi, cette question de l'accompagnement des personnes logées, dans le débat sur la question de l'utilité sociale que nous aurons demain avec Emmanuel Cos, hein, toute nouvelle présidente de l'USH, hein, qui nous a fait l'amitié d'accepter notre invitation. Alors, la crise sanitaire, elle est aussi révélatrice de retard pris, de l'insuffisance de certaines politiques, hein, retard pris dans la mise en œuvre du plan de traitement, hein, et dans la mise en œuvre d'une véritable politique de développement de l'offre de logement en résidence sociale, d'insuffisance dans les moyens donnés à nos adhérents pour qu'ils puissent assurer pleinement leur mission dans de bonnes conditions. Alors, en ce qui concerne la relance du plan de traitement, notre union a fait un certain nombre de propositions, hein. Certes, des progrès importants ont été réalisés. Hein, les situations les plus critiques que nous connaissons aujourd'hui sont heureusement relativement rares. Hein, si on regarde 10 ans en arrière, on aurait été dans une situation beaucoup plus critique il y a 10 ans. Hein, donc ça montre à contrario les évolutions et les progrès qui ont été réalisés. Mais on doit maintenant, enfin ça nous donne un aiguillon supplémentaire pour continuer avec une perspective qui est de que l'ensemble de nos foyers de travailleurs migrants puisse être transformé à un horizon maintenant proche. Cette transformation, cet accompagnement par la possibilité d'offrir à tous nos résidents un logement individuel. Et j'ai rappelé l'importance qu'avait le chez-soi dans la situation que nous connaissons, que nous avons connue, que nous connaissons encore. Alors cette demande de moyens accrus et aussi une volonté, ça demande une volonté politique forte, hein, forte, hein, ça on l'a déjà, nous l'avions évoqué lorsque nous étions rencontrés, mais ça je crois que vous l'avez, et puis aussi de partager cette volonté avec tous les acteurs des territoires, c'est pour nous un point naturellement important, parce qu'on ne fait rien sans sans les territoires, bien sûr. Alors, on appelle aussi effectivement une vraie, de nos voeux, une stratégie de développement de l'offre en résidence sociale, hein, pour les jeunes actifs, hein, pour lesquels, Brocal l'a rappelé tout à l'heure, le premier accès au logement est un facteur essentiel dans le début des parcours professionnels. Pour les nombreuses situations que nous connaissons de personnes qui ne peuvent pas accéder directement au logement ordinaire et qui pour autant ne relèvent pas de l'hébergement, sur ces questions, bah, la stagnation, voire le recul de la production ne peut que nous inquiéter. Hein. Si on fait abstraction des logements qui ont été créés dans le cadre du plan de traitement, il y a très peu d'offres nouvelles qui ont été créées, alors que les besoins vont plutôt croissance. Hein. La transformation des foyers de migrants, ça améliore l'offre, mais ça ne crée pas une offre supplémentaire. Là aussi, l'appui des territoires est essentiel, je dirais, là surtout, hein, l'appui des territoires est essentiel et la volonté politique partagée entre celle que vous avez et la politique qui peut être suivie au niveau des territoires. Alors bien sûr, la question des financements de l'action est également cruciale. Hein, on vous remercie d'avoir été entendu sur la revalorisation du forfait pour les pensions de famille. Hein. On a vivement regretté de ne pas être un peu le secteur oublié quand il s'agit d'aider nos adhérents à faire face aux surcoûts générés par la crise, mais j'ai le sentiment que les lignes sont en train de bouger. On espère être entendu sur la GLS. Hein. Des indications nous ont été données qui nous donnent bon espoir. Hein. Et plus généralement sur le financement du logement accompagné, un sujet que nous avons évoqué lors de notre récente rencontre. Alors notre union, peut-être pour conclure, hein, elle souhaite être à vos côtés pour la mise en œuvre de la politique du logement d'abord, pour réussir les ambitions affichées dans le cadre de cette politique. Et pour ça, il faut que le modèle économique du logement accompagné soit consolidé, il a besoin d'être consolidé, et une vraie politique de développement de l'offre qui nous paraît indispensable. Cela concerne le logement social en général, mais aussi le logement accompagné dont on va parler tout au long de cette semaine. Je vous remercie.
Merci Jean-Paul Vaillant et Emmanuel Vargon, je vous laisse la parole.
Merci beaucoup cher Jean-Paul Vaillant, monsieur le président, merci beaucoup cher Arnaud Broca et merci beaucoup à tous les organisateurs. Je suis contente que vous ayez pu maintenir cet événement, même en virtuel, parce que c'est un sujet important et du coup je suis contente de pouvoir participer à cette semaine du logement accompagné. Quelques éléments peut-être pour nourrir la discussion. D'abord le fait que finalement la crise sanitaire ne fait que renforcer la conviction que nous avons sur le logement d'abord. C'est bien ça la politique structurelle, structurante que nous devons mener pour permettre aux personnes sans domicile fixe ou en situation d'hébergement d'avoir vraiment un accès au logement. Et le logement accompagné, vous l'avez dit, a un rôle extrêmement important dans le logement d'abord. Parce que toutes les formes du logement accompagné sont des formes qui allient l'accès à un véritable logement et le SAS que constitue l'accompagnement sous ces diverses formes qui permettent de réussir l'accès au logement. Donc je vous rejoins dans votre mobilisation pour le logement accompagné et pour le logement d'abord, et vous pouvez compter sur moi comme partenaire en tant que ministre du logement pour ensuite pouvoir rentrer dans chacun des sujets, chacune des catégories et voir comment on peut faire pour faire plus et mieux. Si je commence avec les pensions de famille, c'est un dispositif auquel moi je crois vraiment beaucoup. Nous les avons développées puisque nous avons ouvert un peu plus de 4300 places nouvelles depuis 2017. On a maintenant 20 000 places installées. Vous les soutenez très fortement, y compris avec des actions de communication et de sensibilisation, avec le guide que vous avez produit en 2019, avec le projet d'une semaine nationale des pensions de famille, que j'espère que nous pourrons faire si la situation sanitaire nous le permet. Je crois que sur les pensions de famille, il faut, un, qu'on tienne notre objectif extrêmement volontariste cette année, et on n'y est pas, et deux, qu'on arrive à avoir un objectif encore plus ambitieux pour 2021, quitte à ce que le modèle économique sous-jacent, avec le soutien à travers les PLAI adaptés et donc le soutien que le FNAP va pouvoir nous donner, soit supplémentaire si nécessaire. On a déjà, comme vous le savez, comme vous l'avez cité, revalorisé le forfait journalier des pensions de famille. C'est un premier pas, mais je crois qu'il faut qu'on continue à être plus volontariste. Je le dis aux associations et aux services déconcentrés, il me remonte encore des cas dans lesquels on me dit « il y a une pension de famille qui serait prête, mais il n'y a pas les crédits ». Je le redis, donc je vous le dis aussi. Si ça se produit, dites-le moi, on va régler le problème, parce que pour l'instant, des crédits, on en a, et pour l'année prochaine, je pense qu'il faut qu'on arrive à se donner une ambition supplémentaire. Mais en fait, ce sont les résidences sociales dans leur ensemble qui sont en réalité un élément de solution à travers le logement adapté. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à la fois du logement très social et de l'accompagnement ciblé. C'est aussi la question de la lutte contre l'isolement. On l'a vu pendant la crise et avant la crise l'a finalement montré que c'était une bonne manière de lutter contre l'isolement, notamment en période de confinement. Et je crois que c'est vraiment une demande des résidents et des personnes qu'on accueille. Et du coup, au-delà de la question spécifique des pensions de famille, moi je suis prête à travailler avec vous pour repenser le modèle de financement de l'ensemble des résidences sociales. La DIAL a lancé début 2020 un cycle de travail sur la résidence sociale de demain, avec trois axes, hein, le modèle économique, le projet social et l'inscription dans l'environnement. Et il me semble que dans la continuité du rapport d'Alain Krisnard qui fait des propositions sur l'après-crise, même si en réalité nous sommes toujours dans le pendant-crise, on pourrait relancer ces groupes de travail avec un objectif, là encore, volontariste pour 2021. Vous avez abordé les surcoûts du Covid. Donc je sais que les travaux sont toujours en cours, mais je voudrais vous confirmer à la fois la prise en charge par le programme 177 au prorata du financement initial, donc au prorata de la GLS, et la circulaire au service déconcentré, celle d'août sur l'hébergement d'urgence, qui rappelle que les 25 millions d'euros dédiés à la GLS doivent être strictement réservés à ce dispositif. Nous estimons ces surcoûts à environ 20 millions d'euros pour la première période de confinement. Nous allons évaluer les surcoûts pour la période qui vient et nous referons le point avec vous pour être sûr qu'on couvre la totalité des charges. Je voudrais aussi citer à mon tour les foyers de travailleurs migrants. Vous avez constaté les avancées réalisées au cours des dernières années, des 10 dernières années. Le plan de traitement des foyers de travailleurs migrants s'appliquait à 687 foyers qui accueillaient environ 100 000 travailleurs immigrés. On a énormément progressé, 455 ont été traités, 90 ont été démolis ou vendus ou en situation de changement de statut. Il en reste 142 en attente de traitement. Nous avons, depuis le lancement du plan, évalué le coût total des opérations de traitement à près de 2,5 milliards d'euros. Et du coup, nous devons finir. Donc finir, ça veut dire traiter les 142 foyers restants et les résidences sociales construites avant 2000 et mobiliser toute notre ingénierie pour finir de repenser le modèle économique de nouvelles structures plus petites avec des bâtiments mieux adaptés, de meilleures techniques de construction, mais aussi qui répondent à l'exclusion numérique pour finalement banaliser la construction de résidences sociales ayant vocation à accueillir les résidents des ex-foyers de travailleurs migrants. Du coup, pour moi, les financements du plan de relance, associés au financement de droit commun, doivent pouvoir accélérer la clôture du plan de traitement. Et je vous propose de réunir un groupe qu'on pourrait appeler Réflexion-Action, entre le Think Tank et le Do Tank, avec les acteurs concernés pour identifier les freins qui restent, parce qu'évidemment, les 142 foyers qui restent sont en général les plus difficiles à traiter, les freins pouvant être le manque de foncier, la difficulté de trouver des sites de desserrement, la diminution des capacités, l'état de bâti extrêmement dégradé, etc. Et qu'on voit comment est-ce qu'on prolonge le trait pour arriver vraiment jusqu'à la fin. Donc voilà, en conclusion, le logement accompagné, les résidences sociales sous leurs différentes formes, les pensions de famille, les foyers de travailleurs migrants, je pense que c'est un élément absolument clé de notre politique à la fois d'humanisation, d'accueil et d'accès à un véritable logement. Que c'était déjà important avant la crise et que ça l'est encore plus aujourd'hui, que nous devons continuer à travailler à la fois sur le modèle économique, sur les freins que vous rencontrez et sur notre capacité à accompagner financièrement une montée en charge encore plus ambitieuse que celle que nous avons actuellement et que parallèlement, il faut que nous restions attentifs à la situation des résidents eux-mêmes, parce que vous l'avez dit également, il y a parfois des situations de fragilité. Vous l'avez cité, c'est l'Observatoire des impayés de loyers que j'ai lancé la semaine dernière et vous en faites partie. C'est important pour que l'accès au logement accompagné et l'accès à ces résidences soit aussi un accès sécurisé dans lequel on n'a pas finalement des personnes qui se retrouvent en difficulté et qui mettent en péril leur propre trajectoire et la trajectoire de la structure qui l'héberge. Donc voilà, merci. Et puis surtout pour conclure, je serai très preneuse du résumé, parce que ce sera difficile de faire autrement, des échanges et des débats qui vont avoir lieu, toutes les conférences que vous avez citées, de Cynthia Fleury aux autres, pour voir ce qui s'est dit et comment, du coup, on peut en tirer ensemble une feuille de route ambitieuse sur les aspects que j'ai cités et peut-être sur d'autres. Merci à vous.
Merci, Madame la Ministre, d'avoir été présent et de ces différents mots. Alors moi, je retiens le terme partenaire que vous avez cité au tout début de votre intervention, partenaire du logement accompagné. Je pense qu'on peut aussi dire qu'il y a des réunions très régulières avec vous et des relations aussi avec votre cabinet qui fluidifient les relations et le mode de travail, notamment sur les pensions de famille. Je me permets de ressouligner ce que vous avez dit, parce que c'est souvent des remontées qu'on a sur des projets qui seraient bloqués sur le terrain, mais vous le dites régulièrement et vous l'avez redit là, qu'effectivement ces projets-là peuvent être débloqués. Donc si dans l'assistance nous avons des adhérents concernés, évidemment qui n'hésitent pas à nous mobiliser sur le sujet, des travaux en cours que vous avez annoncé de réflexion, mais d'action aussi, ce que j'ai noté aussi, parce que c'est bien de réfléchir, mais c'est bien d'agir aussi, notamment sur la question du modèle économique. En tous les cas, merci. On fera évidemment des résumés de toute cette semaine, et puis l'étude que j'ai présentée très rapidement en début de lancement est disponible sur notre site. Elle donne aussi une vision assez claire et assez large de l'impact et du rôle du logement accompagné dans l'accès au logement d'un certain nombre de personnes. Je vais laisser la parole de conclusion à Jean-Paul Vaillant.
Une conclusion rapide, hein. Je me joins aux remerciements qui ont été formulés, hein. Je retiens l'idée que vous avez évoquée de réflexion-action, hein. Et les deux arriver effectivement à sortir du plan de traitement et également la nécessité de trouver les bonnes clés pour débloquer des situations qui sont aujourd'hui difficiles. Alors c'est vrai pour le plan de traitement et puis c'est vrai pour la production de résidences sociales en général, hein, ce que j'ai souligné tout à l'heure. En tout cas, je vous remercie à nouveau d'avoir participé à ce lancement.
Très bien, merci à tous.